Ce podcast vous est proposé par BPI France Université. Retrouvez des centaines de formations pour dirigeants de PME sur bpifrance-université.fr.
L'industrie du futur, une série de podcasts pour décrypter l'industrie du futur et progresser pas à pas dans votre transformation.
On le voit sur le terrain, le 4.0, c'est un peu la fin des silos, la fin de cette frontière historique entre les bureaux et les ateliers. On le voit, hein, le 4.0 induit un aplatissement de l'organigramme avec une montée en puissance des logiques transverses autour des notions de projet, d'expérimentation avec les clients, avec les partenaires et également de pouvoir prototyper de manière rapide.
Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts dédiée à l'industrie du futur. Mes deux invités d'aujourd'hui, Dorothée Koller et Jean-Daniel Weiss, ont publié le premier livre en français sur l'industrie 4.0 à la documentation française, basé sur une observation terrain de ce qui se passe en Allemagne. Ils pourraient donc vous parler briques technologiques, jumeaux numériques, AGV, cobots, intelligence artificielle appliquée à la vision industrielle ou plateforme de services industriels. Il pourrait aussi focaliser d'emblée les enjeux sur l'efficience opérationnelle, en présentant le 4.0 comme une prolongation naturelle du Lean Manufacturing. Mais ce qui les frappe, en tant que consultants sur le terrain en France, c'est qu'au-delà de l'efficience opérationnelle, l'industrie 4.0 vient surtout questionner les PME et les ETI sur trois enjeux très classiques. La stratégie, en lien avec l'évolution du contexte et des besoins des clients, l'efficacité des systèmes d'information et bien sûr l'organisation et le management de l'entreprise. Bonjour Dorothée.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes docteur en géographie industrielle. Après une expérience à l'international dans des fonctions dirigeantes au sein d'entités confrontées à des enjeux de restructuration, de fusion et de croissance, vous avez fondé en 2009 le cabinet de conseil Koller Consulting et Coaching. Vous accompagnez aujourd'hui des PME et ETI, des entreprises familiales pour la plupart, engagées dans des processus de transformation stratégique et organisationnelle, en tant que consultante et coach. Bonjour Jean-Daniel.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir. Vous êtes diplômé de l'EM Lyon et docteur en économie. Auparavant en charge du contrôle de gestion et du contrôle financier au sein d'entreprises industrielles, vous êtes aujourd'hui consultant au sein de Koller Consulting et Coaching. Vous êtes spécialisé dans la gestion et l'accompagnement des transformations des entreprises industrielles. Donc Dorothée, Jean-Daniel, passons sans plus attendre à ces trois enjeux classiques, mais fondamentaux, sur lesquels l'industrie 4.0 vient questionner nos PME et nos ETI. Le premier est donc la stratégie, en lien avec l'évolution du contexte et des besoins des clients. Qu'entendez-vous exactement par là? Et pourquoi est-ce que c'est si fondamental?
Bien, ça peut être très pertinent de vouloir construire une usine 4.0 ou d'intégrer des briques technologiques. Mais la question qui mérite d'être posée dès le départ, c'est pourquoi faire? Pour apporter quels bénéfices concrets à mes clients? Or, on voit bien que l'ambition 4.0 est bien plus vaste que la seule amélioration de l'efficience opérationnelle. Au-delà du schéma industriel, elle questionne le modèle d'affaires de l'entreprise, son organisation, les métiers et les compétences des salariés. C'est pourquoi, quand nous intervenons sur le terrain, la première étape est d'interviewer les clients de nos clients pour fixer le cap de cette transformation numérique. Je m'explique. La stratégie concerne la finalité de l'entreprise qui peut se résumer à quels sont les problèmes que nous résolvons pour nos clients. Ou dit autrement, quelle est la valeur que nous créons chez nos clients. Par exemple, si j'installe un jumeau numérique chez mon client, cela va-t-il lui permettre d'obtenir? En quoi cela va-t-il lui permettre de se différencier de ses concurrents?
Un questionnement simple en apparence.
Effectivement, un questionnement en apparence simple, mais qui amène à lancer une double démarche. La première étape consiste à réaliser un état des lieux, on peut dire une cartographie de l'offre de votre entreprise, et de représenter les produits et les services que nous vendons ou proposons aux clients. Et se poser la question avec quels bénéfices pour les différents profils de clients. L'exercice n'est pas simple, surtout quand on a l'habitude de répondre à des appels d'offres, de raisonner à la pièce, de faire valoir son expertise technique et qu'au fil des années, on a développé une culture d'exécutant. C'est pourquoi on propose presque systématiquement aux équipes avec lesquelles, auprès desquelles on intervient, de représenter sur un paperboard, par un schéma, l'offre de produits et des services. Et quand vous aurez fait cet exercice de représentation graphique, vous aurez fait une expérience essentielle, car vous allez prendre collectivement la mesure des apprentissages qui sont à réaliser pour construire cette offre et la rendre lisible ses bénéfices pour vos clients.
Donc faire un état des lieux de l'offre en se posant la question de la valeur créée, d'accord. Et la seconde partie de la démarche ?
Eh bien, la seconde partie de la démarche, elle consiste à demander aux clients de l'entreprise comment ils envisagent leurs priorités stratégiques à 2-3 ans, en tenant compte des évolutions majeures du contexte et de l'environnement concurrentiel. Et de demander à ses clients à quels problèmes sont-ils confrontés de manière récurrente. Quels sont les problèmes que vous pourriez résoudre en travaillant ensemble ? Et à partir de cette analyse, on peut imaginer que vous pourrez co-construire des solutions en prise directe avec leurs besoins. L'intérêt de ces entretiens que nous menons auprès des clients de vos clients est de confirmer ou de corriger certaines intuitions et de mettre en avant des segments d'offres qui n'ont pas été identifiés et souvent qui n'ont pas été monétisés. Ces deux questions impliquent de passer d'une approche souvent technicienne, auto-centrée, à une approche plus stratégique de questionnement du besoin client.
Dorothée, j'imagine que pour beaucoup, cela constitue une véritable révolution, non ?
Oui, tout à fait. C'est un peu une révolution copernicienne, dans la mesure où ce n'est plus le client qui gravite autour de l'industriel, mais l'industriel qui gravite autour du client. Le client devient en quelque sorte le boss de l'organisation. Et l'industrie 4.0 rend ce changement d'approche d'autant plus crucial qu'elle a pour vocation de fabriquer des produits et des services personnalisés. Et puis, reconnaissons-le, qui dit industrie 4.0 pense aussi continuité numérique du fournisseur jusqu'au client final.
Et vous, Jean-Daniel, pouvez-vous nous donner un exemple concret ?
Bien sûr, on peut prendre l'exemple d'un constructeur de machines, d'un offreur de solutions. Il a construit une machine, il l'a installée chez son client et son client, tout d'un coup, lui dit « J'aurais besoin d'un service de maintenance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. » Alors, si ce constructeur ne veut pas s'épuiser à faire de la maintenance curative, préventive, il sera opportun de connecter ses machines pour faire du prédictif. Il pourra proposer une monétisation de ses services sur la base de l'augmentation de productivité obtenue sur sa machine. Et en connaissant mieux l'état de fonctionnement en temps réel, il pourra également proposer des évolutions de la machine, du rétrofit, du parc machine de son client, voire de machines qui ont été installées par des concurrents. Ces services qui sont réservés aux seuls équipements produits par notre constructeur de machines, ils peuvent être étendus aux autres machines d'âges différents, et de constructeurs différents. On voit ici que l'offre ne se limite pas à un appui à la conception, à la fabrication de la machine et au démarrage de la machine chez le client. Elle s'étend tout au long du cycle de vie du produit, c'est-à-dire de la machine, jusqu'à une possible revente, en aidant le client à valoriser la machine, peut-être en la recyclant. L'enjeu stratégique, là, c'est de segmenter le portefeuille de services et de produits en fonction des différents profils de clients, de leurs besoins, et d'être en veille constante sur l'évolution de ses besoins.
Très bien. Passons à présent au deuxième enjeu. Je reviens sur ce que vous disiez il y a un instant. Qui dit industrie 4.0 pense continuité numérique du fournisseur au client final. C'est pour ces sujets de continuité numérique que vous soulignez l'importance de l'efficacité des systèmes d'information ?
Bien sûr, parce que là encore, l'industrie 4.0, elle vient renforcer un enjeu qui est bien réel et qu'on constate sur le terrain. Il y a nombre d'entreprises qui sous-utilisent leurs ERP. L'ERP, il a souvent été conçu à la base comme une machine à tout faire, une clé unique pour ouvrir toutes les portes, toutes les serrures. Et en fait, sur le terrain, la réalité, elle est bien différente. On est toujours vraiment étonné de voir à quel point les entreprises les sous-utilisent, leurs ERP, avec des causes qui sont un paramétrage inadéquat, un manque de compétences informatiques en interne, une mauvaise imputation des données en amont, le fait qu'il n'y ait pas de référent dans l'entreprise, de spécialiste, d'expert de ce système pour le faire vivre, un manque de confiance dans l'outil, ou voire même un manque d'implication d'éditeur hein, qui ne répond pas en temps et en heure aux demandes. Et du coup, on constate une forme de résignation des entreprises face à l'ERP. Ils ne délivrent pas les résultats et finalement, on s'en accommode. Et dans ce cas, l'entreprise, elle a souvent fait que la moitié du chemin. On trouve 1000 raisons pour expliquer que les gammes sont forcément imparfaites. L'imputation des temps est difficile, la planification hebdomadaire, elle est impossible. Or, avant de penser robots et jumeaux numériques, il y a beaucoup de valeur à créer simplement en utilisant l'ERP au maximum de ses capacités pour éclairer non seulement l'analyse, mais surtout la décision. Et la suite logique du travail sur la stratégie, c'est de connaître la marge par segment du portefeuille produits-services existants et on a besoin de l'ERP pour ça.
Et c'est souvent là que les difficultés commencent ?
C'est effectivement souvent le cas. Les marges, elles sortent rarement en presse-bouton, dans une belle extraction toute prête. Et demander une marge sur coût direct par produit et famille de produits, ça ressemble souvent à ouvrir la boîte de Pandore. Pourtant, c'est à ce moment précis que notre travail consiste à embarquer les équipes, à leur faire prendre conscience qu'elles n'exécutent pas des tâches, mais qu'elles réalisent un résultat. Ça demande de la pédagogie, mais notre pari, c'est qu'à partir du moment où le terrain se saisit des chiffres, le processus de transformation est amorcé. Pour traverser la crise du Covid-19 et se mettre au 4.0, la porte d'entrée, c'est l'appropriation des chiffres par le terrain. C'est l'ancien contrôleur de gestion qui parle. Ça permet de savoir où on se trouve et où on veut aller et d'embarquer les équipes en partageant une même boussole. C'est un acte de responsabilisation par un apprentissage concret.
Embarquer les équipes, donner du sens, responsabiliser. Je crois que nous touchons là à notre troisième et dernier enjeu, non ? Quelles sont les conséquences de tout ce que vous venez de nous exposer en termes d'organisation et de management ?
Eh bien, rappelons-nous les étapes que nous venons d'évoquer ensemble. On a réalisé un état des lieux de l'offre. On a écouté les clients, ajusté son offre. Je sais où je gagne et où je perds de l'argent. J'ai segmenté mon offre de produits et de services en fonction de mes profils de clients. Je vais donc pouvoir réfléchir différemment à mon organisation en partant de mes clients. Rappelez-vous, ce que je vous ai dit, c'est le client devient le boss de l'organisation.
D'accord, et concrètement, qu'est-ce que ça change ?
Eh bien, ça change beaucoup de choses parce que je vais concevoir mon schéma industriel de manière différente. C'est-à-dire que je vais possiblement avoir un pôle dédié à la grande série, avec des lignes de production fortement automatisées où je vais être focalisé sur mes coûts. Un autre pôle dédié à la production de produits personnalisés, avec des lignes modulaires, disposant de machines d'impression 3D, par exemple. Et puis, d'un autre côté, un pôle dédié au rétrofit, à la réparation, au recyclage, en lien direct avec le cycle de vie du produit. Ces différents pôles demandent une grande rapidité en termes d'innovation, d'ajustement au marché, de prototypage, de design. Et ça serait certainement irréaliste d'imaginer que je vais réaliser tout seul, en solitaire, tous ces apprentissages. Je dois être capable d'intégrer les résultats de recherche d'horizons différents, de nouer des partenariats avec des experts de la data et du design et de bénéficier sur le plan numérique de l'apport de certaines plateformes. Donc, je vais passer d'une approche auto-centrée à une approche qui va être très sensible aux apports de partenaires extérieurs.
Et pour répondre à ce besoin de coopération, j'imagine qu'une structure classique de type pyramidal est inadaptée ?
Elle est effectivement assez inadaptée, parce qu'on sait qu'une structure pyramidale sclérose, de même qu'une structure qui est focalisée sur ses processus et procédures, sera normative. Alors que j'ai justement besoin d'expérimenter rapidement avec mes clients, de pouvoir corriger le tir et de pouvoir réexpérimenter. On le voit sur le terrain, le 4.0, c'est un peu la fin des silos, la fin de cette frontière historique entre les bureaux et les ateliers. On le voit, hein, le 4.0 induit un aplatissement de l'organigramme avec une montée en puissance des logiques transverses autour des notions de projet, d'expérimentation avec les clients, avec les partenaires, et également de pouvoir prototyper de manière rapide. Et on peut dire que cette tendance est renforcée avec la crise de la Covid. Car pour décider et agir dans l'incertitude, les structures verticalisées et cloisonnées se révèlent inefficaces parce que trop lentes et trop bureaucratiques.
Justement, est-ce que cette crise vous a permis d'expérimenter de nouveaux modes d'intervention, de mettre en place de nouvelles instances de pilotage ?
Oui, tout à fait, parce que cette crise, elle nous a demandé, et elle a demandé à beaucoup d'entreprises de questionner son mode d'intervention. Et donc, on a construit avec nos clients une nouvelle manière d'intervenir. Comment on s'y prend ? Eh bien, on constitue des task forces qui réunissent des collaborateurs venant de services et de niveaux hiérarchiques différents. Et avec ces task forces, on travaille sur la stratégie et la conquête commerciale, le retour d'expérience client, l'efficacité opérationnelle et ce fameux zoom dont Jean-Daniel parlait sur la construction des marges et les bilans d'affaires. Et enfin, on regarde comment on peut simplifier l'organisation. Pour conclure, on peut dire que les priorités, bien sûr, varient en fonction des entreprises, en fonction du contexte. Mais notre constat, c'est qu'une fois qu'on a travaillé ces sujets avec les équipes, qu'on les a abordés et traités simultanément sur un laps de temps assez court, qui peut varier de 3 à 4 mois, et qu'on a pu réaliser ces différents apprentissages, enfin que les équipes ont pu réaliser ces différents apprentissages sur l'état des lieux de l'offre, l'écoute client, le retour d'expérience, la rentabilité des segments produits et services, une meilleure efficacité de l'organisation, eh bien, on constate que les équipes sont dans une posture bien plus favorable pour se lancer dans l'industrie 4.0.
Eh bien, ce sera donc le mot de la fin. Merci encore Dorothée et Jean-Daniel pour ce retour basé sur votre expérience de terrain, pour ce partage très riche et ces premières pistes pour progresser sur le chemin de l'industrie 4.0. Au revoir et à très bientôt pour un nouvel épisode de votre podcast « L'industrie du futur ».
Au revoir.
Au revoir.
Ce podcast vous a été proposé par BPI France Université. Retrouvez des centaines de formations pour dirigeants de PME sur bpifrance-université.fr.